Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Galère au 88.4. Vous écoutez l'émission Écoforum, l'émission qui donne la parole aux actrices et aux acteurs engagés des transitions environnementales et solidaires de Marseille et sa région. Nous sommes le mercredi 19 juillet 2023 et nous sommes en direct de 19h à 20h. Vous pourrez retrouver cette émission en rediffusion demain jeudi 20 juillet de 9h à 10h ainsi qu'en podcast sur radiogalère.fr lorsque vous cherchez la rubrique Écoforum.
.com.
Sachez que cette émission s'inscrit dans le cadre de la Forêt des Possibles qui est menée en partenariat avec l'Arbre des Imaginaires. Dans une société en crise, la Forêt des Possibles prépare le monde qui vient en faisant émerger un univers foisonnant, interdépendant et résilient. Et surtout, elle vous invite, vous toutes et tous, auditeurs et auditrices, à trouver votre juste place dans une société résiliente, c'est-à-dire une société où on puisse vivre dignement aujourd'hui et demain, au travers des différents témoignages de nos invités inspirants que nous recevons chaque semaine sur Radio Galère, grâce à l'allégorie de l'arbre, du wiki de l'arbre des imaginaires, de la forêt de la résilience marseillaise que nous voyons pousser semaine après semaine dans notre émission, ainsi que par ces différents jeux d'accompagnement. Ensemble, nous questionnons la place du jeu, donc de l'individu dans le nous, c'est-à-dire dans le collectif, et ensuite comment est-ce que ces collectifs s'agencent et s'entremêlent les uns les autres pour former le tout, c'est-à-dire un système, une société. Je suis Marin Moffret, et ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Anne et Sarah, qui venaient représenter le compost de Gambetta. Bonsoir Anne, bonsoir Sarah.
Bonsoir Marin.
Bonsoir Marin.
Et merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Alors pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, on va présenter un petit peu le plan qu'on va suivre aujourd'hui et le cheminement de nos réflexions. Dans un premier temps, on va un peu discuter de vos parcours respectifs, savoir quelles sont les valeurs et les engagements qui vous tiennent à cœur, avant très rapidement de présenter le compost, des difficultés de prononciation ce soir, le compost de Gambetta, et ensuite on discutera quelques grandes thématiques qui permettent d'inscrire ce compost très local dans questionnements de société qui sont plus larges et qui l'inscrivent donc dans un écosystème résilient autour de trois grandes questions, à savoir le compost en tant que tel et sa participation à la régénération des sols et la lutte contre le fait qu'il y ait trop de déchets, ensuite la question du soin et enfin la question de l'eau. Donc vaste programme ce soir et sans plus attendre, je vous invite à pouvoir vous présenter brièvement. Est-ce qu'une d'entre vous souhaiterait commencer ? Anne peut-être ?
Volontiers. Alors cela étant, en arrivant avec Sarah, nous disions que se présenter de manière personnelle nous renvoyait quand même à la représentation que nous faisons ici ce soir. C'est vrai que le compost, nous en reparlerons tout à l'heure, le composteur Gambetta, nous aurons l'occasion d'en reparler, mais c'est plus un nous. Tu parlais de la place du jeu. Alors moi, juste ma place à moi de jeu. Mais voilà, ça pourrait être moi, Anne, mais aussi Daniel, Nicolas, Marie-Laure et tous ceux qui œuvrent autour du compost. Voilà. Alors moi, mon jeu, j'ai le privilège d'habiter face au composteur Gambetta et de pouvoir en admirer les activités qui s'y déroulent. Je ne sais plus depuis quelle année, bénévole, mais depuis à peu près 2 ans au composteur. Et il y a eu tout un tas de transformations qui se sont opérées au fur et à mesure de ma fréquentation, on va dire, du compost, de mes actions au sein du compost, grâce à toutes les personnes que j'ai pu rencontrer dans cet écosystème. Et beaucoup de choses qui ont changé, des choses qui m'ont transformé, qui ont transformé un petit peu ma façon de vivre et ma façon d'agir au quotidien. Voilà.
Merci Sarah. Effectivement, ce compost, c'est une initiative collective sur lesquelles tu fais partie avec d'autres. J'en fais moi-même partie de ce compost, même si je suis beaucoup moins investi d'une initiative un peu autogérée de personnes qui décident de faire vivre un compost en centre-ville. Mais nous, ce qu'on aime bien dans cette émission, c'est de pouvoir permettre à chacun et chacune qui nous écoute de pouvoir se projeter dans des parcours et des questionnements, en tout cas, qu'on peut partager et se dire « Ah tiens, c'est intéressant de voir que telle personne s'est posée telle question et que sur ces questions-là, elles se sont retrouvées dans des initiatives collectives pour changer les choses à leur échelle. » C'est pour ça qu'on commence par là. Je te poserai exactement la même question, Sarah. Est-ce que tu veux présenter les questionnements, les réflexions, les engagements qui sont les tiens et qui t'ont invité à pouvoir t'engager à ton tour dans ce compost?
Merci. En réfléchissant, finalement, il y a quand même une disparition qui a été déterminante, hein, c'est celle de ma mère, qui était très habitée par ces questions-là. Et donc, à partir de sa disparition, un certain nombre de choses sont apparues, et donc une posture absolument radicale. On est toujours habité par un « nous hein, », le « je » n'est jamais affranchi de la part des autres. Et celle-ci, c'était un héritage précieux, et oui, déterminant. Donc ça participe à l'historique du composteur, c'est-à-dire voir combien... ce que l'on peut appeler un déchet qui n'est plus à la possibilité de fabriquer de la vie. Voilà. Mmh. Donc, s'il y avait une date et une place à trouver, ça serait celle-ci. Et voilà pour le pédigré, c'est-à-dire qu'il habitait.
Ben, merci beaucoup pour ce témoignage qui est fort à entendre pour ce début d'émission. Pour celles et ceux qui nous écoutent semaine après semaine, et puis on en discutait aussi un petit peu avec vous avant cette émission, ce qu'on aime bien proposer, c'est la question de nos arbres de vie qui ensuite passent à l'échelle de la forêt. Et donc les arbres, ça représente nos écosystèmes et savoir aussi qu'est-ce qui nous a poussé à un moment à être dans l'action ou à être dans la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Et donc là, ton témoignage est très fort sur cette question-là. Et puis après, ce que j'entends aussi, c'est le rapport à la cyclicité. Dans ce que tu partages, Sarah. Et c'est quelque chose qu'on va pouvoir aborder tout au long de cette soirée, ce rapport à la cyclicité, puisque c'est quand même au cœur de l'idée même d'un compost. Et peut-être qu'on peut commencer par cette question-là de savoir ce que c'est. Voilà, une petite définition simple pour débuter de ce que c'est qu'un compost.
On va commencer par le plus simple. Hein.
Ouais.
Alors, c'est une parcelle. Hein. Notre composteur est dans un maillage très dense hein, de quartier, Gambetta, en haut de la Canebière. Et c'est donc une parcelle tout à fait limitée de 8 mètres carrés à peu près. Et qui se trouve, la configuration est très précise et très particulière, au-dessus d'un parking. Et entre Arplex, qui s'est construit, et la rue. Une rue très patiente. Donc ça, c'est la configuration, la base, hein, mm-hmm. c'est-à-dire son ancrage dans la densité d'un quartier. C'est un ancrage extrêmement ouvert, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas un bocal, hein, il n'y a pas de clôture. Ça, c'est déterminant hein, pour présenter notre composteur, sa spécificité topographique. Et puis, ensuite, en termes de processus, c'est un bac, plusieurs bacs même, dans lequel il va y avoir des dépôts réguliers, les dépôts des ressources vertes, mmh. qui sont bien gérés par des tas de petites mains et 1000 éléments qui relèvent de la faune. Donc les petites mains, ce sont, voilà, ce sont les personnes qui participent et qui vont participer à générer des déplacements hein, des ressources selon leur maturation dans le temps. Et ensuite, on va donc utiliser un autre bac pour déplacer le premier état du compost, c'est-à-dire la transformation des ressources vertes en humus, en terre fertile, féconde. Donc c'est un deuxième bac qui va recevoir cette terre-là et qui va être donnée, hein, offerte. Alors, je vous passe évidemment tous les autres bacs qui vont servir à recueillir ce qu'on appelle la régie. Hein. Il y a toujours des cartons pour, de temps en temps, apporter du carbone au compost. Il y a des pelles, enfin, il y a quelques instruments qui vont nous permettre aussi d'agir pour retourner, aérer, déposer cet humus en train de se faire, cette terre en train de se faire à partir des ressources vertes. Voilà physiquement ce que c'est que notre composteur.
Merci Sarah. Donc effectivement, on a bien compris déjà où se situait le compost Gorbetta d'un point de vue géographique au centre-ville de Marseille. Et puis ensuite, tu nous as fait une petite description de son fonctionnement. Est-ce que Anne, tu veux nous expliquer le pourquoi d'un compost avec les questions en amont et les questions en aval d'un compost, en fait?
Alors, pourquoi le compost? L'idée est justement de se dire, à la base, on parle de déchets. Et c'est vrai que nous, aujourd'hui, on récuse un peu ce terme pour parler de ressources. L'idée, c'est que ce qui peut se transformer, cette matière organique, qui, en présence de l'oxygène et donc d'une certaine aération, et ensuite à partir de tous les petits êtres vivants qui vont venir grouiller dans toutes ces matières qui sont les épluchures notamment, qui ça peut être le marc de café, les coquilles d'œufs qui vont être brisées en petits morceaux, etc. Toute cette matière vivante, cette matière organique, l'idée, c'est de se dire, on sait qu'elle va servir. C'est une matière vivante qui va être utilisée parce qu'elle va être fertile, elle va générer de la terre fertile qui ensuite pourra être utilisée par toutes les personnes qui en auront besoin. On pense notamment aussi à l'association du jardin de Noailles qui végétalise les rues de Noailles et qui peut être amenée à utiliser le compost, à toutes les personnes qui sur leur balcon, dans leur jardin, vont utiliser ce compost. Donc l'idée, c'est cette chaîne de dans ma cuisine, j'ai un certain nombre d'épluchures, etc. Alors, on ne met pas dans le compost les restes alimentaires tels que de la viande et du poisson pour éviter les petites bêtes, les rats notamment, qui pourraient venir s'interférer. Mais voilà, je pars de ce que j'ai qui n'a aucune raison aujourd'hui d'aller dans ma poubelle, parce que c'est une matière vivante et qui va donner ce sont des ressources qui ensuite vont donner de la matière qui pourrait être utilisée.
Donc si je devais le reformuler avec mes propres termes, ce que j'entends, c'est que en amont du compost, plutôt que de considérer que nos déchets issus ce qu'on appelle les déchets organiques, donc qui peuvent être issus de légumes, de fruits ou de coquilles d'œufs et parfois de carton, plutôt que de considérer que ça soit du déchet et que ce déchet, ensuite, dans une ligne linéaire, on le consomme, on l'achète, on le consomme et ensuite on le jette et on le brûle, on va se dire peut-être qu'on va pouvoir réduire les déchets et les réutiliser. Ensuite, on passe par le fonctionnement du compost que tu nous as un petit peu expliqué juste avant, Sarah. Et après, on arrive à une terre fertile qui va pouvoir être remise dans le circuit et pouvoir être distribuée à des particuliers ou un certain nombre d'initiatives qui vont pouvoir récupérer cette terre pour pouvoir régénérer les sols, avoir des sols qui soient plus riches pour pouvoir à nouveau produire des fruits et légumes. Et donc plutôt que de, si jamais vous nous écoutez, vous pouvez voir deux grands schémas dans votre tête. Le premier, ça va être un schéma qui va tout droit, se dire j'achète, je consomme, je jette et après on brûle. On va pouvoir se dire, j'achète, je consomme, je restitue, et ensuite la boucle reprend, et ça repousse, et puis je réachète, et puis je re-restitue, etc. C'est un petit peu ça l'idée.
C'est un cycle de vie, quelque part.
C'est un cycle de vie. Et donc pour continuer les questions les plus factuelles autour de ce compost, avant de pouvoir rentrer dans des grandes questions, comment est-ce qu'on peut y participer? Là, si jamais je vous écoute et je me dis « Ah oui, tiens, génial, un compost, qui peut vous rejoindre ?»
Il y a deux tonalités dans la participation. La plus fluide, c'est-à-dire déjà au quotidien, reprendre ce que tu as dit, Marin, hein, c'est-à-dire avoir un geste quotidien, mais extrêmement simple, qui est déjà une participation active au compost, pleinement même. Donc ça, c'est un premier élément, ça transforme hein, véritablement, parce que ça agit sur le rapport au vivant. Et la deuxième étape, ben, c'est évidemment d'emmener son seau le samedi matin, puisqu'on a des permanences. Donc la permanence du samedi matin est de 10h30 à 12h30. Et l'été, on en rajoute une de 17h30 à 19h.
Le mercredi, pardon.
Oui, merci Anne. Donc voilà, ça c'est un ensemble. Le troisième niveau, c'est celui de pouvoir s'inscrire sur la liste de diffusion. Et quatrième niveau, c'est à partir du moment où on est inscrit sur la liste de diffusion, il y a un tableur qui est partagé pour pouvoir aussi s'inscrire dans des permanences qui vont de 30 minutes à 2 heures maximum. Voilà. Donc c'est une forme très élastique hein, où chacune peut trouver sa place aussi. Et elle permet, nous l'espérons, hein, de pérenniser ce composteur qui est en autogestion totale. Il n'y a pas d'association derrière, ni ce genre de format.
On comprend donc qu'il y a quatre niveaux d'engagement qui vont des gestes les plus simples vers un engagement régulier au service de cette communauté qui n'a pas d'inscription juridique derrière. J'aimerais te reposer une question sur les tout premiers gestes, peut-être pour celles et ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas forcément... des pratiquants, si j'emploie des guillemets avec mes mains en parlant. Comment est-ce qu'on fait pour récupérer ces déchets organiques et les restituer ?
On les récupère dans un contenant, dans sa cuisine. Alors, c'est vrai qu'en été, on évite de le fermer très hermétiquement parce que entre les jus de tomates et les épluchures de melon ou autres fruits, la macération va être très rapide et va dégager justement une certaine odeur puisqu'il y aura une anaérobie, hein, sans manque d'oxygène. Mais voilà, tout simplement, je trouve un contenant dans ma cuisine ou sur mon balcon que j'essaye d'aérer un petit peu, le temps d'ensuite venir le déposer, soit le mercredi, soit le samedi, et je dépose dans le bac mes épluchures. Je peux y ajouter, s'il y a vraiment trop de liquide, hein, je peux découper des petits morceaux de boîte à œufs ou des cartons alimentaires dans mon contenant.
Et alors moi, je donnerais un petit conseil personnel suite à une mésaventure qui m'est arrivée récemment. Je gardais... mes déchets alimentaires et mes déchets organiques dans des sacs en papier que je mettais dans mes escaliers, et mes voisins ont eu quelques problèmes de moucherons. Alors je vous invite tout de même à trouver un endroit stratégique qui ne vous dérangeront pas, enfin que cet endroit ne vous dérangera pas lié à ces moucherons là et puis vous, en fait, vous êtes un lieu où il y a des composts, mais il y en a d'autres aussi à Marseille.
Tout à fait, il y en a au jardin Longchamp notamment, au Square Labadie peut-être aussi. Maintenant.
Pas encore, ça
va être mis en place.
Mais lorsqu'on vient au composteur Gambetta, comme il y a des permanences, on est bourré de conseils. Mais vraiment, moi j'ai tout appris grâce aux rencontres, aux micro-conseils qui, de conseil en conseil, font qu'en plein été, il n'y a pas un moucheron, rien, parce que la lasagne est parfaite, quoi, c'est-à-dire intercaler du carton et des épluchures.
Ça, je peux aussi en témoigner sur quelques conseils reçus sur comment cuisiner tout son poireau et ne pas jeter la partie verte au compost, ou encore comment cuisiner au mieux des lentilles et parfois en deux phases et non pas en une, pour se séparer de la petite mousse blanche de la première cuisson des lentilles. C'est des choses qu'on apprend effectivement au compost. Donc quand tu partages ça, Anne, Sarah, clairement tu es tout à fait dans ce que je ressens en participant humblement de mon côté dans ce compost. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est qu'on puisse discuter de votre écosystème. Donc vous avez dit qu'en tant que tel, vous, nous, puisque nous faisons partie du même écosystème, on en forme un. Mais après, il y a aussi des structures ou des associations ou des jardins avec lesquels vous travaillez aussi, le compost travaille de façon régulière ?
Régulière, je ne dirais pas régulière. C'est vrai que, enfin, on n'a pas de structure à proprement dite. C'est plus de manière très spontanée que les personnes se manifestent à nous et voilà, nous demandent à droite, de droite et gauche, nous demandent si nous avons du compost mature, voilà, pour l'utiliser dans des plantations, du jardinage, etc.
D'accord. Donc ce compost mature, comme tu l'appelles, moi, citoyen que je suis, je peux en récupérer si je le souhaite. Et ensuite, il y a peut-être des jardins ou des associations qui viennent sporadiquement vous voir pour dire on en a besoin à tel moment. C'est comme ça que ça se passe ?
Ça arrive oui. De temps en temps, oui, tout
oui.
à fait.
Et puis il y a les relais, il y a des personnes, la liste de diffusion est ample. Alors à partir du moment où on annonce que le compost est mûr, eh bien, il y a un système de relais qui fait que le bac n'a jamais débordé, loin de là.
Super. Et alors, pour continuer à poser, on va dire, les bases avant de pouvoir ensuite enchaîner sur quelques thématiques de société qui sont liées à ce compost, est-ce que vous pouvez revenir sur ce que tu disais un petit peu en introduction, Sarah, sur la façon dont ça se passe à l'intérieur d'un compost ? Comment est-ce qu'on arrive au début avec des déchets organiques qui sont encore tout frais ? Et ensuite, on les met dans un premier bac, puis un deuxième bac, et on arrive à de la terre. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ?
C'est une transformation biologique, en fait. C'est ce mélange de matières organiques qui, en présence de l'oxygène, d'où l'importance de la circulation de l'air, va aboutir au compost. Et en fait, c'est ces matières organiques qui sont attaquées par des bactéries. Il y a des micros et des macros êtres vivants, des bactéries, mais aussi des champignons microscopiques, des cloportes, des scolopendres, etc., et qui vont venir attaquer cette matière et aboutir au compost.
Et est-ce qu'on a une petite idée du nombre de kilos ou de tonnes qui peuvent être récupérées en amont et de ce que ça va pouvoir générer en aval en matière de terre fertile ou pas du tout ?
Oh, c'est ralent parce que Nicolas avait fait un calcul. Alors, c'est un calcul qui revenait évidemment sur le fait que non seulement il y a fabrication de terre, au-delà de réparer la terre, en fabriquer, c'est quand même ça, une puissance imaginaire, mais aussi on vide les poubelles en plastique. C'est-à-dire qu'il avait calculé en fait le tonnage. C'est stupéfiant. C'est-à-dire, oui, il y a fabrication de terre, mais aussi il y a soustraction claire, mais nette, du tonnage de déchets, comme tu le disais, Marin, qui vont être brûlés, mais aussi qui remplissent du plastique. Et autant de sacs en plastique, moins remplis, c'est moins de plastique. Donc c'est très dommage qu'on n'ait pas l'arithmétique, mais on a été bouleversé davantage par la baisse du tonnage des ordures, ce qu'on appelle les ordures ménagères, et du plastique qui l'entoure, que davantage les kilos de compost. Je crois que quand on donne quelque chose, on ne compte pas. Donc, ça ne nous est pas venu de compter les kilos de compost.
C'était effectivement pour donner quelques ordres de grandeur à ceux qui nous écoutent.
On pourrait demander ça, Nicolas. Moi, j'ai juste oublié quand même d'ajouter que pour que cette transformation se fasse, il faut quand même ajouter ce qu'on appelle du brun, c'est-à-dire du broyat, c'est-à-dire un mélange de feuilles, de branches sèches, voire de carton, de boîte d'œufs, de la matière sèche. Globalement, il faut à peu près 60, pour donner quelques chiffres, 65% de vert, d'humide, et 35% de brun, de matière sèche, pour que ce processus se fasse. Voilà.
Est-ce qu'on peut créer son propre compost ? Si jamais on devait donner quelques règles de base sur un compost qui soit fertile et équilibré, on retiendra donc 65% de vert, 35% de brun, comme tu dis, ensuite une aération, donc un contenant qui puisse vous préserver des rats et en même temps qui puisse également avoir des aérations pour pouvoir avoir l'air qui rentre, qui ressort et éviter que ça se fasse trop rapidement. Deux composts, le mélanger régulièrement aussi. Est-ce qu'il y a d'autres règles majeures ?
Alors, on peut faire son compost soi-même, mais comme on parle d'un composteur à Gambetta qui a une forme collective, c'est tellement chouette de se retrouver. Parce que quand on se retrouve quand même, on se donne des astuces, on apprend. C'est-à-dire que c'est grâce au composteur qu'on s'est passé des articles, parce que justement c'est Daniel, hein, qui est le fidèle, qui est toujours là, qui nous a expliqué comment transvaser, comment prendre soin aussi d'un compost. Alors c'est vrai qu'il y a des incubateurs qui se vendent, hein, aussi. Mais ce qui se passe en fait sur cette plateforme entre le Harplex et la rue, c'est quand même des rencontres, c'est la naissance d'un collectif qui réjouit de voir des bestioles manger des ressources, quoi, et une terre se fabriquer. C'est une expérience qui se partage, ça.
Ce qui est beau, c'est que tu es en train de débuter la suite de la conversation qu'on va avoir en parlant du soin là à l'instant, et puis dans ta réponse précédente, Sarah, tu nous parlais du fait que le compost permettait de réduire le plastique utilisé sur les déchets, réduire l'énergie utilisée pour brûler les déchets, réensemencer la vie avec de la terre fertile. Et donc, plutôt que d'être dans les logiques linéaires, je consomme, j'extrais de la terre, je la paupérise et après je la pollue, c'est je restitue et je restaure. Et ça sera juste après la pause qu'on va pouvoir aborder ces questions de société. Est-ce que vous voulez nous présenter la musique que vous avez prévu de nous faire écouter avant de pouvoir ensuite embrayer sur ces questions-là?
Anne? Oui. The Sound of Silence de Simon & Garfunkel.
Merci beaucoup Anne et Sarah du Compost Gambetta. On se retrouve juste après la pause.
My old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share, and no one dared disturb the sound of silence. Said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words and I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell. Silence, and the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed its warning.
Musique qu'on adore et en même temps beaucoup de choses à aborder encore en deuxième partie d'émission, dans l'émission Écoforum qui donne la parole aux actrices et aux acteurs des transitions environnementales et solidaires de Marseille et sa région. Nous sommes toujours en direct le mercredi 19 juillet 2023 et nous sommes toujours en direct avec Anne et Sarah du compost Gambetta. Et dans la première partie d'émission, on a pu présenter un peu vos parcours, savoir pourquoi vous étiez engagés, puis ensuite ce qu'était le compost Gambetta et donner quelques ordres de grandeur ou d'ordre de fonctionnement d'un compost pour pouvoir ensuite rentrer dans la discussion sur comment est-ce qu'une petite initiative particulièrement ancrée dans un territoire participe à des choses qui la dépassent dans un cadre de société où chacun à sa juste place participe à notre résilience collective. Qu'est-ce qu'on entend par résilience, puisque c'est un mot qu'on entend de plus en plus souvent. Dans ma bouche, ça veut dire vivre dignement aujourd'hui et demain. Et demain, c'est un monde où il y aura des contraintes écologiques qui vont continuer à être encore plus marquées. Et donc, comment est-ce qu'on s'adapte à tout ça? Et dans cette deuxième partie d'émission, on va donc questionner trois thèmes qui s'entremêlent à un moment avec l'expérience le fait de mener un compost. Le premier, c'est celui de la régénération des sols et la réduction des déchets. Le deuxième, c'est la question du soin. Et le troisième sujet, c'est la question de l'eau. On a devant nous environ 20-25 minutes, donc ça va être assez bref. Mais l'idée, ça va quand même de pouvoir donner quelques ordres de réflexion que vous pourrez garder comme des graines dans la suite de vos séjours que vous avez à nous écouter. Et donc on va commencer avec ce premier sujet qui est celui de la régénération des sols et la réduction des déchets. On en a un petit peu parlé avant l'émission. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ces questions-là, Anne et Sarah?
Alors je vais taper fort. Hein.
Vous êtes là pour ça.
Sur la transformation, alors évidemment, il y a la transformation, je reprends le terme marin de déchets, hein, puisque c'est un terme usuel, mais on pourra se permettre aussi de dire que ça nous transforme aussi. Donc le premier point, c'est que c'est une expérience sensible extrêmement simple, c'est-à-dire qu'on vient verser son seau de ressources vertes, alors continuons à l'appeler quand même de déchets. Donc, c'est pas glamour, quand même. Et pour autant, à ce moment-là, on peut dire qu'on rentre dans l'expérience de l'immortalité. C'est-à-dire que... Mais c'est sensible, hein, c'est extrêmement simple. Mais on va déjà se pencher sur quelque chose qui, là aussi, a priori, n'est pas attirant. Il y a toute une faune, là, qui court dans des ressources en train de pourrir, en fait. Hein. Ça, c'est l'aperçu immédiat. Hein. Ça sent mauvais, etc. On ne va pas dire que les pots d'échappement à côté sentent mauvais, mais là, ça sent mauvais. Et en fait, c'est dans cette expérience-là qu'il y a une transformation aussi du rapport sensible. Mmh. C'est-à-dire qu'on va se rendre compte qu'on peut dire que cette faune-là, elle est joyeuse, elle est belle, elle est magnifique, c'est dingue, quoi. Que le compost est très beau, qu'il est en train de devenir riche, bon, etc. Donc il y a une dimension un peu d'alambic, hein, qui, on y revient, enfin, on est réenchanté, hein, par des permanences, et qui transforme, qui vraiment le rapport au vivant, et j'insiste, hein, la qualification de ce monde qu'on peut trouver à partir du compost de quartier. Donc c'est vraiment modeste, hein, plus ou moins vivant désormais. Voilà.
Ce qui est assez beau dans tout ce que tu viens de partager, c'est vraiment que là, tu fais le lien de l'individu que tu es avec ce que tu as partagé au tout début sur la mort d'une personne chère, à l'engagement dans un compost pour expérimenter la cyclicité, pour reprendre ton terme, une part d'immortalité, et comment est-ce qu'ensuite ça transforme ton rapport à l'existence, à la fois d'un point de vue hyper matériel, terre à terre, la main dans la terre, et aussi dans des questions qui sont plus spirituelles.
Oui, mais pas les yeux en l'air, hein. Alors là, je renverrai au très beau numéro de la revue Mille Cosmos, avec ce titre, La mort est-elle écologique ? C'est pas du tout du mysticisme. J'emploie ce terme à dessein pour lui, justement lui tordre un peu le cou. C'est-à-dire que oui, par le cycle de la vie, eh bien, en fait, on tombe un peu du perchoir sur les grandes questions de l'immortalité. L'humus, c'est une très grande leçon de vie qui, tu l'as très bien dit, hein, dans la première partie, qui incessamment se réinfiltre, se transforme, devient autre, parce que l'humus, enfin, le compost que l'on va mettre dans la terre va devenir lui-même... va permettre le devenir de plantes, de graines, d'arbres, et ainsi de suite.
Merci pour ce témoignage très fort. Tu as maintenant l'habitude, première partie d'émission avec un témoignage fort, deuxième partie d'émission avec un témoignage fort. Anne, à ton tour, je te laisse prendre le relais.
Oui, volontiers. Sarah utilisait le terme de transformation. Je l'ai dit rapidement un peu en préambule. Transformation parce que ce geste de composter ou de participer, enfin, en tant que bénévole, en tenant les permanences, en étant sur le compost, ça produit quand même ça induit certaines choses dans la vie quotidienne. Et pour ma part, c'est vrai que à partir du moment où j'ai commencé à venir au compost, à rencontrer, à échanger sur ce radeau, comme on l'appelle parfois, sur cette plateforme, des transformations se sont opérées dans le sens où petit à petit, j'ai eu envie et besoin de changer aussi ma façon de consommer, ma façon de m'alimenter, ma façon de voir aussi ce compost, puisque j'ai eu l'opportunité de faire aussi un reportage photographique sur le compost et les composteurs et les compostants qui ensuite étaient exposés au restaurant de la table d'Hélène sur les allées, et voir des gros plans de ce compost et des gens s'ébahir devant ces photos en gros plan, c'est vrai que c'était assez émouvant. Mais voilà, tout ça pour dire que oui, ça induit des transformations aussi dans la vie quotidienne.
On voit effectivement que cette question de regarder les déchets autrement, regarder la cyclicité autrement de notre économie, mais finalement la cyclicité elle s'inscrit dans des questions qui sont plus intimes. Ça nous amène à un autre thème qui finalement est assez lié avec celui-ci, qui est celui du soin, où on voit quand même se tresser dans vos réflexions et dans vos partages. Le fait qu'en prenant soin de la terre, vous prenez soin aussi de vos liens à vous-même et aux autres. Est-ce que je touche juste, ou est-ce que c'est pas forcément quelque chose qui...
Si, le soin, c'est un des thèmes que nous avions choisi avec Sarah, parce que le soin est au centre du compost, enfin cette parcelle, cette mini parcelle, comme l'a si bien décrite Sarah, hein, c'est 8 mètres carrés sur les allées, au milieu du béton, de la route, etc. Cette parcelle, déjà, il faut en prendre soin. Cette parcelle, on en reparlera tout à l'heure, il y a un lien aussi avec l'eau et ce manque d'eau. Cette parcelle, elle est parfois occupée, parce que des gens occupent cette parcelle, sont assis, dorment aussi parfois, hein, déposent des matelas devant les bacs de compost. Donc le soin de ce lieu est important pour nous, et le soin des autres, parce que c'est un... Voilà, on l'a déjà évoqué, c'est autre chose qu'un simple moment de dépôt. Ça va être le soin des autres, parce que les personnes qui viennent déposer aussi ont toujours un merci, un sourire. Certains restent un moment, c'est un lieu d'échange, comme dans un bar, hein, où on vient échanger. Voilà, donc c'est aussi le soin des plantes qui entourent la parcelle, qui malheureusement en ce moment... aurait besoin d'eau. Toute cette notion de soin autour de cette petite parcelle de 8 mètres carrés, que ce soit des habitants, des gens, toutes les personnes qui sont là et qui viennent et qui passent et qui restent et qui repartent. C'est ce soin des autres et de ce lieu qui est important pour nous.
Et avant de te donner la parole juste après, Sarah, pour faire vraiment un lien avec ce que tu dis, Anne, à titre personnel, puisque je viens aussi tous les samedis, sauf le samedi dernier où il était fermé, ce qui m'a provoqué des soucis avec mon voisin. Il y a effectivement le fait de se dire, en prenant soin, au début j'y suis allé pour le soin de la terre, en disant voilà, je vais rendre à la terre ce qui lui appartient, et donc plutôt que jeter mes déchets organiques dans une poubelle, ce qui me faisait mal au cœur, alors que avant je vivais chez mes parents, il y avait un jardin où je pouvais remettre ça dans le compost du jardin, là je disais mais ça va être brûlé, c'est une catastrophe. Ça a été la première étape du soin. La deuxième, elle est arrivée sur progressivement rencontrer des personnes et des têtes familières et puis discuter au début 30 secondes, puis 1 minute, puis 5 minutes, puis 15 minutes, parfois 1 heure. Et donc effectivement, il y a un soin, on va dire, du collectif. Et puis, il y a aussi cette question du soin plus intime de mon propre ancrage, en disant à ma petite échelle, je sais que je participe à quelque chose qui fait du bien à tout le monde. Et donc ça me fait du bien aussi. Donc voilà quel était mon retour aussi, de se dire en participant à régénérer les sols, en participant à faire vivre un collectif, même si moi je ne le fais pas vraiment vivre puisque j'en profite plus, en tout cas c'est comme ça que je me perçois dans cette initiative, ça me fait quand même du bien de me dire au moins sur les questions qui m'angoissent de changement climatique, je sais que ma petite action participe à régénérer des sols qui iront mieux et qui utiliseront moins d'énergie que si jamais on brûlait cette ressource-là et qu'après on utilisait encore une fois du pétrole pour avoir des engrais à la place de cette terre, ce qui semble complètement aberrant. Donc voilà quel est mon retour là-dessus. Sarah, quel est ton regard par rapport à la question du soin ?
Je vais être minimaliste. On démarre avec des intentions, on va se dire qu'on apporte un seau. Et puis, tout se conjugue avec l'attention. C'est-à-dire qu'on va faire attention aux personnes qui sont là, toutes les personnes. On va faire attention aux éclopés, comme aux mille-pattes. on va se rendre compte qu'il y a eu du passage, parce qu'il faut ramasser des débris. Donc, il y a aussi une ouverture à l'imprévu, qui est une forme aussi de mise aux aguets, d'attention, mais j'insiste, qui est plus flottante, ouverte à ce qui peut arriver. Voilà. Donc ceux et celles qui peuvent arriver, mais aussi tout ce qui a pu arriver et dont notre plateforme recueille le témoignage, les traces que l'on va ramasser pour éviter que la terre soit pleine de mégots, soit pleine de... Donc, c'est ça, en fait, je trouve, le composteur. C'est un endroit où on se dirige avec une intention et puis on finit par épouser l'attention, voilà, au plein sens du terme.
Merci beaucoup pour ces partages qui éveillent nos imaginaires et nos cœurs avec effectivement le fait de s'interroger 2 minutes sur c'est quoi une intention et comment est-ce que ça aboutit sur une attention. Et comme dernier grand thème qu'on s'était donné pour ce soir, qui nous ramène à des sujets qui sont plus larges que nous, mais qui en même temps par nos actions viennent mailler, tisser une société dans laquelle on souhaite continuer à vivre, il y a celui de l'eau. Et cette question-là, c'est une question qui est sur lequel il faut faire particulièrement attention, surtout en ce moment, en plein été, avec des nappes phréatiques qui ne se sont pas beaucoup rechargées cet hiver, même si on a pu avoir le sentiment avec les pluies de juin que ça pouvait être mieux que rien. Malgré tout, les nappes ne se sont pas remplies comme elles doivent l'être en plein hiver quand c'est le moment où elles se remplissent. Pourquoi est-ce que c'est un sujet qui est si important pour vous, lié au compost quand même?
Parce que l'eau, c'est la vie et qu'il y a un petit bout de vie sur la parcelle qui entoure le compost. En fait, il y a une parcelle qui était végétalisée à la construction du compost. Et suite à des problèmes avec la voirie, avec la mairie, l'arrosage automatique à un moment donné a cessé de fonctionner. Et il n'a jamais été réparé malgré les interventions répétées, notamment de Marie-Laure, qui a essayé de mener des actions auprès de la mairie du 1er arrondissement. Et de fait, donc, cette pauvre parcelle sur laquelle il y a un arbre qui dépérit, un olivier qui se bat, et enfin, chaque plante essaie de se battre pour survivre grâce à la volonté et grâce à l'action de nombreux bénévoles et de nombreuses personnes qui viennent composter, qui a mené des seaux d'eau, des bouteilles d'eau. Ce printemps, la parcelle a retrouvé un peu de vie, mais voilà, en ce moment c'est un petit peu, enfin c'est plus que la catastrophe, voilà. Et donc on se dit que c'est fort dommageable, puisque cet espace végétalisé apporte un peu de fraîcheur. Et là, ce n'est plus du tout le cas.
Et alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Ou alors, quelles sont les préconisations, au moins, pour les décideurs publics locaux ?
Déjà, dans un premier temps, uniquement de réparer cet arrosage automatique, de façon à ce que toutes les plantations qui ont été faites, enfin qui sont là, puissent retrouver un peu de vie.
Marie-Laure parlait de maltraitance institutionnelle. Voilà, puisque c'est un arbre, c'est la vie, et un arbre est mort. Mort. Voilà, ça se voit quand il y a de la maltraitance. Et l'arbre, il fait partie de la parcelle, enfin, il fait partie de ce recyclage, justement.
Et un arbre qui est mort, c'est quelque chose qu'on n'aime pas entendre, surtout lié à... Enfin, par rapport en plus au projet qu'on essaie de porter, en disant on essaie de passer d'une cité qui doit rentrer en transition vers une forêt où on fait émerger des possibilités. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de tresser de semaine après semaine. Parfois, ça meurt. Il faut le dire, lié à des absences de politiques institutionnelles et publiques qui regardent vers l'avenir qu'on va avoir en collectif. Vous disiez que vous étiez à côté du Artplex sur l'allée Gambetta. C'est une place qui a été refaite il n'y a pas beaucoup de temps, qui me questionne à titre personnel en se disant comment est-ce que c'est possible qu'en 2023, une place de plein centre-ville, alors qu'il y a des études qui ont montré que si on ne fait rien dans le centre-ville, il fera 92 degrés en plein été, en température ressentie à Noailles, on continue à tout bétonner. Alors là, ce n'est pas du béton, mais c'est quand même des dalles. On aurait pu avoir un vrai espace de fraîcheur à ce niveau-là, donc avec plus d'espèces végétales qui seraient au bénéfice de tout le monde, en fait. C'est-à-dire que ça serait agréable d'y être, il ferait moins chaud. Quel est le regard que vous avez sur cet endroit qui se trouve littéralement à 50, 100 mètres de la parcelle ?
Et en plus, Marin, un rooftop. Donc ça rajoute du bruit dans le ciel et les oiseaux. Non, mais en plus, tout est dans le rouge, rien n'est dans le vert.
Le même regard que le tien. J'étais stupéfaite que, comme tu le dis, qu'en 2023, on pose encore des dalles. Alors certes, ils ont rajouté 2-3 arbres, histoire de se donner bonne conscience. Le projet de l'architecte paysager en charge de ce réaménagement était de laisser tout au moins minima les végétaux pousser au pied des arbres, et la métropole ou la mairie, je ne sais, s'y est opposée en disant que il fallait absolument que ce soit dégagé autour des arbres. Enfin, c'est un peu désespérant.
Si mes informations sont bonnes, c'est surtout la métropole qui est en charge de ces aménagements urbains. Mais pour ne pas rester là-dessus, peut-être qu'on peut quand même essayer de donner quelques graines d'espoir. Parce que c'est quand même tout l'enjeu que des composts, que de se dire on participe à un cycle qui fait qu'après ça se régénère encore et encore. Lors de nos échanges un peu en off, il y a quelques semaines, Sarah, on parlait des furtifs. Alors là, il nous reste 3 minutes, mais peut-être qu'on peut conclure sur cette œuvre qui nous plaît tous les deux et qui un peu nous invite à aller dans les angles morts, à aller chercher les forêts et à faire régénérer le vivant partout où il se trouve, parfois d'aller chercher des îlots. Alors dans le livre, c'est des vrais îlots qui sont parfois sur des rivières, mais vous, vous êtes aussi un petit îlot de verdure au milieu de dalles de béton partout. Comment est-ce que vous voyez ça et quels sont les appels à l'espoir et à l'action que vous pourriez donner à ceux qui nous écoutent?
Occuper les interstices et piquer et s'aimer. C'est un mélange de Damasio et de Deleuze. Et puis Marie-Laure, qui est une figure, on n'a que des figures, enfin toutes les personnes sont des sourires, c'est des apports, c'est au-delà du saut, quoi. Marie-Laure disait dernièrement, ne pas changer la réalité, mais éveiller un rêve. Elle a dit ça. On parlait, mais alors, voilà, c'était à bâton rompu. Et puis, c'était plus ou moins ça, sa formule. Et c'est éveiller un rêve, c'est magnifique dans la défaite des imaginaires. Et ça peut se passer sur 8 mètres carrés.
Anne, est-ce que tu as quelque chose à rajouter dessus ou est-ce que finalement c'est la conclusion parfaite?
Ça me semble être la conclusion parfaite. Moi, je dirais juste que d'aucuns disent que c'est un truc de bobo, voilà, et que c'est quelque chose, que le compost ne se pratique qu'en ville. Oui, peut-être, parce que justement en ville, on a besoin de ces îlots hein, de verdure, de ces îlots de production de terre. Et puis... que c'est ouvert à tous et ce n'est pas du tout juste un truc de bobo, quoi.
Et ben j'espère que c'est entendu et que donc pour vous retrouver, pour redonner les informations concrètes, ce sont les samedis matins entre 10h30 et 12h30, c'est ça ? Et l'été, les mercredis, entre
17h30 et 19h.
C'est voilà. Deux dates. L'été, il y a deux dates.
Voilà, l'été, il y a deux dates. Et l'hiver, c'est uniquement les samedis matins. Et effectivement, on espère, nous, semaine après semaine, montrer que toutes ces initiatives qu'on essaie de tracer, de lier, d'entremêler les unes les autres, ne sont pas que des petites initiatives cool de bobos perdues dans des grands... magma de pollution et de béton, mais participe à faire pousser, germer un monde dans lequel on pourra continuer à vivre demain, et mieux vaut le choisir que le subir. Donc peut-être que ça peut être perçu comme quelque chose de bobo aujourd'hui, mais si ça fait en sorte qu'on aura un peu moins chaud et qu'on pourra continuer à manger et vivre dignement demain, eh bien moi j'en fais le pari et le choix. Donc je vous propose qu'on s'arrête là-dessus. Et je vous remercie grandement, Anne et Sarah, d'être venues pour partager vos expériences autour du compost de Gambetta. Et pour celles et ceux qui nous écoutent, sachez que nous allons prendre une petite pause estivale de cette émission Écoforum sur laquelle toutes les semaines on reçoit les acteurs et les actrices des transitions écologiques et solidaires qui viennent faire pousser notre forêt de possible. Et on se retrouvera à la rentrée à partir du mois de septembre. Et donc vous aurez quelques rediffusions sur ce coup-là. Et Sarah, tu avais un dernier mot que tu voulais partager?
Oui, pour la jeunesse. C'est tout. Tout ça, ça se fait pour la jeunesse. C'était bien d'introduire avec une disparition qui apparaît, mais pensez à la jeunesse. C'est magnifique. Donc merci, Marin.
Ben, j'ai rien à rajouter. Donc très bonne soirée à vous. Merci à toi, Sidi, qui est en régie et qui rend cette émission possible toutes les semaines. Et à bientôt.